Bonjour, toujours à l'écoute de Radio Méga, bienvenue sur Underscore comme les Kinder. C'est encore l'occasion pour moi de vous faire des surprises.
Bonjour Mému, bonjour Doudou, bonjour Madel.
Bonjour Cécile.
Salut tout le monde.
Hello.
Et bonjour les auditeurs. Ah bah oui, la surprise. Non, les Kinder, non, c'était pas bon cette année. Hein. Il fallait pas les faire.
Ah, vous voulez pas de surprise? Bon, je repars avec mon sujet alors.
Ah non, 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 on veut bien, bon. On veut savoir. Qu'est-ce que tu voulais nous parler aujourd'hui?
Je savais pas trop, et puis en fait c'est les 20 ans de Creative Commons, donc du coup je me dis bon, on peut faire un petit sujet sur un petit rappel sur les licences libres et ouvertes, tout ça. On va faire un petit sujet quoi,
c'est histoire toujours de faire utile, un rappel. Bien sûr,
ouais, voilà.
Mais avant un peu d'actualité, alors qu'est-ce qu'on a
à l'actu? Oui,
alors le CNRS encourage les scientifiques à ne plus payer pour être publiés. Dans le cadre de la politique de la science ouverte du CNRS, les articles scientifiques doivent être disponibles en ligne en libre accès. Le CNRS encourage ses chercheurs et ses chercheuses à se tourner vers les modèles de publication gratuites à la fois pour les auteurs et les lecteurs. Directeur général délégué de la science, Alain Schulz détaille ses recommandations.
Le Commodore 64 a 40 ans. Hackaday propose une vidéo avec Bill Heard parcourant l'histoire des machines 8 bits de Commodore.
Peertube vient de dépasser les 1000 instances déclarées. Les statistiques sont publiques et grâce à vous, à vos dons, c'est grâce à vous, à vos dons que Framasoft peut faire son développement.
Consultation de la Cour des comptes, soutenir la proposition d'évaluation des dépenses de logiciels de l'État. Dans l'objectif de renforcer les liens de juridiction financière avec les citoyennes et citoyens, la Cour des comptes a ouvert jusqu'au 20 mai 2022 une plateforme de consultation afin de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de proposer les thèmes nouveaux sur lesquels l'institution pourrait exercer sa mission de contrôle de l'action publique. L'une des propositions est d'évaluer les dépenses de logiciels de services en ligne des administrations centrales, l'APREL appelle l'ensemble des personnes soucieuses d'un plus large usage du logiciel libre dans le secteur public à soutenir cette proposition.
Sans autre établissement souhaite se syndiquer chez Amazon. Après le succès d'une première création d'un syndicat chez Amazon, et malgré des entraves déployées par les patrons, une centaine d'autres établissements souhaitent faire de même.
Ouais.
Couper Internet est un délit en Afrique. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu une ordonnance relative à une plainte dirigée contre l'État béninois pour coupure Internet à l'occasion des législatives 2019.
Ouais, bah c'est tout pour l'actu.
Mais c'est déjà bien.
Bah oui.
Allez, on écoute une musique chiptune issue d'une démo de la révision. Et pour après, nous retrouver pour le sujet du jour avec MMU et les sciences Creative Commons, c'est ça?
Ouais, entre autres.
Allez, à tout de suite.
Thank you.
Miyagi Futuris de Bent Gloomstames, une musique issue d'une démo PC qui est terminée première à la révision 2019, qui a été l'occasion pour tous les demo makers de se retrouver au week-end de Pâques.
Et oui.
Alors, nous passons au sujet du jour.
Générique.
Le sujet.
Alors, les différentes licences libres et ouvertes. Alors que mes acolytes regardaient tranquillement le live de MO5 sur Twitch, pendant que je rédigeais les actus, bah, il a bien fallu que je trouve un sujet. Et puis, ah bah ça tombe bien, c'est les Creative Commons, elles ont 20 ans déjà,
mais c'est quoi tout ça, les licences libres?
Alors, au commencement, le logiciel était libre. En effet, il servait de faire valoir un matériel hors de prix, et personne n'aurait songé à restreindre sa diffusion. Et puis un petit bilou est arrivé et s'est dit que c'était dommage de ne pas faire des sous avec ça. C'était sans compter sur Richard Stallman, hein, qui refusa que son imprimante ne puisse être utilisée avec l'ordinateur de son choix. Puis il créa le projet GNU et la licence GPL. On rappelle qu'on a fait un portrait de lui en 2017. Ouh là là, c'était il y a très longtemps. On vous épargnera toute l'histoire, on a déjà raconté le mouvement open source lancé en opposition, tout ça. Donc l'open source, c'est le libre moins l'éthique, enfin... Ou le libre, c'est l'open source plus l'éthique.
Voilà. Ah, il faut savoir qu'effectivement, les logiciels, hein, sous licence, sans licence, voilà.
Y a toujours une licence, en fait. Par défaut, en fait, c'est le droit d'auteur qui s'applique. S'il n'y a pas de licence, et le droit d'auteur dit qu'on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit, en fait. Pas le droit de copier sans l'autorisation de l'auteur, ni quoi que ce soit. Après, quand on achète des trucs propriétaires, y a un gros pavé qui dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et puis, quand on prend du logiciel libre, on a une licence libre qui dit qu'on a le droit de faire ça, de faire ça, et de faire ça, et de faire à peu près tout, en fait. Et justement, y a les quatre libertés. Donc, rappelons les quatre libertés du logiciel libre en nous référant au site de l'April. Tiens, un logiciel libre vous garantit plusieurs libertés. La liberté d'utiliser le logiciel pour quelque usage que ce soit. Donc, c'est la liberté zéro. Donc, quelque usage que ce soit, hein, ça veut dire même des trucs... qui vont pas forcément plaire à l'auteur s'il est au courant, mais bon, voilà. C'est lui qui a décidé que vous aviez le droit. La liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à vos propres besoins. C'est la liberté 1. L'accès au code source est une condition pour ceci. Et parce que si on n'a pas le code source, on ne peut pas l'adapter.
Oui.
La liberté de redistribuer des copies de façon à pouvoir aider votre voisin, hein, c'est la liberté 2. Et enfin, la liberté d'améliorer le programme et de diffuser vos améliorations aussi au public de façon à ce que l'ensemble de la communauté en tire avantage, c'est la liberté 3. Donc l'accès au code source est aussi une condition pour tout ceci. Avec un logiciel libre, en fait, vous avez le plat, la recette, le droit de redistribuer ou de vendre le plat, la recette et même de la modifier. C'est pas génial ça.
C'est un peu comme de la cuisine, hein, la programmation finalement.
C'est un peu ça, on fait des recettes et puis on met au four, on lance le compilateur et puis on obtient un plat mangeable par l'ordinateur. Quoi. Voilà. Alors il y a une autre notion à côté des quatre libertés, c'est la notion de gauche d'auteur ou copyleft en anglais. On traduit, c'est une double blague en fait, hein, ça vient de copyright, copyleft. C'est pour faire c'est un contre-pied au droit d'auteur. Et puis du coup, en français, on a traduit par gauche d'auteur, parce qu'il y a le droit d'auteur, il y a le gauche d'auteur. En fait, le copyleft est une clause de certaines licences libres qui oblige les travaux dérivés du logiciel à rester sous la même licence, empêchant ainsi que l'on referme le projet et son évolution. Donc c'est surtout contre ça que se sont battus, et se battent encore, alors que par ailleurs, ils adorent l'open source, des géants comme Microsoft et Google. Puisque les licences qui appliquent ce principe de copyleft leur interdisent de refermer le code pour garder les modifications pour eux. D'où leur qualification de virale pour ce genre de licence. Hein, parce que vu de leur point de vue, en fait, où ils voudraient s'approprier un peu tout ce qui leur passe sous la main, c'est un truc qui se répand et qui les empêche d'y accéder. Quoi.
Comme si c'était facile. Non, mais on vous prend votre code et en plus, on va faire du business dessus. Hein. Merci, voilà. Bisous.
Et ouais. Donc, mais la GPL n'interdit pas de faire du business, de vendre, y compris de vendre de logiciels. Alors c'est vrai que je n'ai pas forcément tout détaillé, mais en fait on peut très bien vendre du logiciel libre. C'est juste que vous avez l'obligation avec de fournir le code source. Donc celui qui va l'acheter va pouvoir le compiler, le modifier et puis redistribuer lui aussi le code source. Donc ça, bon voilà. Mais c'est possible aussi. Et puis, vous n'êtes pas obligé non plus de publier à tout le monde le code source, en fait. En général, même la GPL, par exemple, dit que vous devez donner le code source à ceux à qui vous avez fourni le logiciel. Donc, ce qui n'est pas forcément tout le monde, en fait. Mais bon, donc pour revenir au copyleft, donc il y a deux grands types de licences. Les licences dites copyleft, qui appliquent ce principe-là. La plus connue, c'est la GPL, il y en a quelques autres. Et face aux licences copyleft, en fait, on trouve une grande majorité de licences, souvent qualifiées de libérales, c'est-à-dire qu'elles laissent le choix à l'utilisateur de publier ou non les modifications qu'il fait et de les redistribuer, donc de les garder sous les mêmes conditions. Et puis à côté de ça, donc ça j'ai parlé des licences libres pour les logiciels, parce que c'est de là que ça vient. À côté de ça, il y a eu plein de choses qui sont passées autour du logiciel libre et de ces idées qui a donné lieu à d'autres créations numériques et le besoin est arrivé de licences plus adaptées. Donc Laurence Lessig et Aaron Swartz, dont on a déjà parlé aussi, proposèrent les licences Creative Commons, qui est un ensemble en fait de licences pour des créations numériques dont certaines sont libres mais pas toutes, et c'était déjà donc il y a 20 ans.
C'est un peu comme quand tu vas chercher des dessins, ils sont en Creative Commons, des musiques aussi qui peuvent être en Creative Commons.
On trouve plein de choses, Oui, Ahmed Bell.
En ce moment, en Creative Commons, moi, personnellement, j'utilise les sons pour faire des banques sonores.
Oui, par exemple, ça permet de savoir qu'on a le droit facilement de réutiliser certaines choses. Donc globalement, les licences Creative Commons donnent le droit d'utiliser un peu comme on veut les contenus, avec une indication claire et quelques options suivant le choix de l'auteur. Donc ces options sont indiquées par un groupe de deux lettres après la mention CC. Donc CC, c'est pour Creative Commons, évidemment. Puis en général, c'est CC-BY, CC-SA, ou alors il y a des combinaisons, CC-BY-SA. Et puis il y a NC aussi. Donc, alors le BY, en fait, c'est by, en anglais, c'est de un tel, donc c'est l'attribution. Donc on demande la citation de l'auteur lors de l'utilisation, ce qui est quand même un peu la moindre des choses habituellement, mais bon, tout le monde n'est pas obligé de demander à ce qu'il soit cité, c'est pas obligatoire non plus. Il y a la mention aussi SA, donc share alike. Donc c'est l'équivalent du copyleft, en fait. Les créations dérivées doivent être partagées à des conditions identiques. Et puis la mention NC, donc c'est non-commercial, ça, cette option interdit l'usage non commercial, rendant effectivement la licence en question non libre, puisque du coup c'est plus pour tous les usages.
Alors moi j'ai une question vis-à-vis de tout ça, parce que c'est bien beau de faire des CC et tout, mais quand tu as le contenu et que tu peux te l'utiliser, c'est une histoire d'éthique, parce que finalement le contrôle derrière, il y en a vraiment ?
Ça après c'est à l'auteur de faire valoir ses droits. Après il a la licence qui vaut ce qu'elle vaut, mais je sais pas les Creative Commons, mais les licences libres comme la GPL ont déjà été mises en œuvre dans des tribunaux pour faire valoir des droits. Il y a eu pas mal de procès de violation de la licence GPL, même je crois que Free avait à un moment, Free utilise notamment plein de trucs sous GPL dans la Freebox par exemple. Et à un moment, ils ne publiaient pas le code source. Je crois qu'Orange aussi s'est fait prendre à ce niveau-là. Donc, ils ne publiaient pas leurs modifications, alors que c'est obligatoire. Hein, quand tu lis la GPL, c'est... Voilà.
Donc, ouais, c'est vrai que je trouve que malgré tout, le contrôle derrière, on n'en entend pas beaucoup parler. Hein, de...
Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas... Contrairement aux majors du disque qui, elles, brassent des millions et puis en reversent un tout petit peu aux auteurs et puis s'en mettent plein dans la poche, ils ont des millions à dépenser sur la pub pour fustiger le piratage et tout, et puis pour aller faire des procès à des gens qui n'ont pas forcément fait le pire des trucs, alors qu'il y en a d'autres qui copient sans vergogne, mais... Et donc, les auteurs, ils n'ont pas forcément le budget pour payer un avocat pour faire valoir leurs droits. Mais au moins, ils ont la licence et ils peuvent s'appuyer dessus s'ils ont envie d'aller plus loin.
Alors, effectivement, il y a aussi une question d'éducation, parce que finalement, les gens qui utilisent les outils ou les supports de la musique ou des dessins ou des photos qui se retrouvent en CC, ils n'ont peut-être pas forcément l'éducation pour se dire « Ah, il y a un auteur derrière, ah, ce serait bien que je le cite parce qu'il a mis un bail. » C'est des choses comme ça. Les gens, qu'ils soient éduqués pour bien reconnaître les droits des auteurs, finalement.
Ouais, mais ça, c'est que ce soit sur des contenus ouverts comme sous Creative Commons ou enfin licence libre, ou comme la musique en général sous d'autres licences, enfin propriétaires pour le coup. C'est pareil. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui font des extraits un peu longs de certains et qui créditent pas forcément. Enfin, et puis il y a des gens qui samplent à tout va, et qui créditent pas non plus et qui refont des morceaux avec ça et qui se font des sous, c'est encore pire. Donc voilà. Mais ça, c'est oui, c'est une éducation. C'est vrai que on a grandi avec Internet, qui est une grosse machine à copier. Donc c'est vrai que ça vient pas forcément de soi.
Ouais, non, voilà. il faut quelque part être éduqué. On t'écoute.
Avant, c'était les cassettes. Donc oui. C'est le même style. Quoi.
Home taping is killing the music industry. We left this side blank so you can help. Il y a, je sais plus quel groupe qui avait fait ça, ouais, qui avait fait une cassette et puis un album sur cassette avec cette mention. Donc la copie privée tue l'industrie de la musique. Mmh. Nous avons laissé cette face vide pour que vous puissiez y aider. Mais bon. Alors donc sur les licences CC, il y a aussi la CC0 qui en fait. Qui est une licence en fait qui cherche à s'approcher le plus possible du domaine public volontaire. C'est vrai que je l'ai pas dit, on en a déjà un peu parlé. Dans le droit d'auteur, dans la plupart des pays, hein, que ce soit le copyright anglo-saxon, qui est en fait juste l'équivalent des droits patrimoniaux en France. Et puis en France, avec le droit d'auteur qui comprend donc des droits patrimoniaux, c'est-à-dire pécunier, le fait de pouvoir vendre et faire des sous avec, et puis les droits moraux, c'est-à-dire le droit au respect de l'œuvre, etc., qui eux sont inaliénables et donc on peut pas les céder contre monnaie. En fait, ces droits, ils sont donnés à l'auteur par la loi toute sa vie et puis un certain nombre d'années après sa mort. Donc en fait, c'est les ayants droit après qui récupèrent les fruits de ça. Et après, en théorie, l'œuvre va dans le domaine public. Alors, la plupart des gens disent « tombe dans le domaine public ». Il y a certaines personnes que je connais qui préfèrent plutôt l'expression « s'élever dans le domaine public », parce que quand même, c'est l'état normal, en fait, de l'œuvre. Hein. C'est un peu comme un ballon qu'on tient pendant un certain temps, puis au bout d'un moment, bah, faut le lâcher, et puis il s'envole, il fait sa vie. Et du coup, ça rentre dans le patrimoine commun, quoi. Et donc, cette fameuse licence CC0, en fait, elle simule la mise dans le domaine public volontaire, c'est-à-dire sans attendre les 70 ans après la mort de l'auteur, parce que ça devient tellement long maintenant.
Surtout que nos données sont très volatiles. Hein, donc,
ouais, mais du coup, voilà, il y a encore des discussions là-dessus. Je ne sais pas si c'est vraiment facile à appliquer en France, parce qu'on ne peut pas vraiment renoncer à certains droits. Enfin, bon, voilà. Donc... Ben voilà, après avoir dit tout ça, comment est-ce qu'on pourrait faire pour choisir sa licence? Alors ça va dépendre du type d'œuvre, hein, si c'est un logiciel, si c'est une création artistique, une image, du son, etc. Ça va dépendre aussi si vous voulez que les gens puissent l'utiliser, y compris pour une utilisation commerciale ou pas. Donc en fait, typiquement la licence Creative Commons, c'est un peu à la carte. Vous choisissez, je prends du Creative Commons. Alors par contre, je vais prendre l'option non commerciale parce que machin, etc. C'est à vous en tant qu'auteur après de choisir les conditions sous lesquelles vous voulez que les gens puissent utiliser vos œuvres. Donc il y a plusieurs, on vous mettra bien sûr, hein, comme d'habitude, tous les liens sur underscore.radio.fm, c'est ça? Je ne me suis pas trompé?
C'est ça, wow. underscore.radio.fm.
On vous mettra donc tous les liens sur voilà, les plusieurs sites qui vous permettent de choisir. En fait, ils vous posent des questions comme ça. Est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que vous voulez que le partage soit identique ou pas? Et puis, y a des gens qui se posent la question de est-ce que les licences libres, c'est suffisant? Est-ce que c'est pas gênant en soi? J'étais il n'y a pas longtemps, en fait, au 8 Fab Lab à Cré. On avait une soirée sur les communs. Donc, on a beaucoup discuté. C'était très intéressant. Il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de monde, mais c'était très intéressant. Et on a discuté donc justement de ce phénomène. En fait, il y a plusieurs auteurs de logiciels, notamment de logiciels libres, qui se disent en fait, tout ça, tout ce qu'on produit nous en tant que créateurs, c'est récupéré par des grosses entreprises qui font énormément de fric avec et qui reversent juste une obole pour se donner bonne conscience. Mais voilà quoi, en fait, eux, ils font un fric énorme et c'est pas génial, génial, quoi, le fonctionnement de cette société comme ça. Et du coup, ils se sont demandé, est-ce qu'on pourrait pas trouver mieux, ou est-ce que finalement, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de faire du logiciel libre, ou est-ce que du coup, ça aide le capitalisme en tant que système à s'accaparer encore plus de valeur. Donc c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a des choses qui se passent comme ça. Et puis il y a des entreprises, on avait parlé de MongoDB par exemple, qui avait voulu changer sa licence vers une licence qui du coup n'est pas libre, puisqu'elle interdit certains usages et certaines entités, notamment des entreprises, à utiliser son produit. Du coup, c'est plus libre. Alors est-ce que le libre, c'est suffisant? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à trouver? Ça questionne un peu le modèle de société dans lequel on vit.
C'est un peu complexe. En tout cas, pour tout ce qui est licence Creative Commons, par exemple pour les images, moi, j'en ai l'usage régulier où, par exemple, lorsque je fais une recherche sur le moteur de Google Images, je vais vérifier ceux qui sont en licence Creative Commons pour utiliser généralement des images qui ont des qualités particulières, hein, si elles sont libres d'usage, s'il faut citer l'auteur. C'est plus facile de pouvoir rechercher dans ce secteur-là, en tout cas.
Puis c'est plus facile, du coup, il n'y a pas besoin de trouver l'adresse de l'auteur pour lui envoyer un mail pour lui demander « Est-ce que j'ai le droit de citer ton truc ?» C'est marqué explicitement, en fait, c'est surtout ça.
C'est ça. Donc après, c'est plus facile pour après produire du contenu.
C'est ça. Alors d'un côté, sur ce débat-là, d'un côté, ces licences, ce principe de libre, ça aide en fait les gens à partager les choses entre eux. Mais d'un autre côté, y a toujours des gens qui veulent s'approprier ce qu'on fait gratuitement pour la communauté. En fait. Donc y a même des gens qui disent « Non, il faut absolument arrêter de faire du logiciel libre et tout. » Notamment quelqu'un qui a écrit le Télécommuniste Manifesto. Donc je n'ai pas lu encore, mais du coup, j'ai appris ça. Je vais aller regarder.
Et ça n'empêche que quand tu regardes bien au niveau de la recherche pour le Covid, tout le monde s'est mis ensemble là, pour trouver
des vaccins.
Oui,
mais tout d'un coup, quand ça menace, y compris les plus riches d'entre nous, tout de suite, ça devient beaucoup plus simple de
mettre les ressources à la disposition de tout le monde. Et cette forme d'intelligence collective se retrouve depuis très longtemps dans l'univers du logiciel libre. Et elle devrait être normalement celle qui nous conduit aujourd'hui.
C'est un peu le modèle académique de départ. On a déjà parlé des éditeurs de revues scientifiques, enfin avec des gros guillemets, parce que du coup, est-ce que c'est vraiment de la science? On a déjà eu ce débat-là. Mais du coup, c'est un peu le modèle académique où le but, c'est de produire ensemble de la connaissance et de la partager, parce que sinon, c'est pas de la science, en fait. Enfin, voilà.
C'est ça.
Donc, c'est un vaste débat encore, mais j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur la question. Et puis, je pense que je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. Donc, c'est
d'accord.
Pas grave.
En tout cas, merci. Moi, je trouve que c'était pertinent de pouvoir reparler un petit peu de tout ça, parce que c'est assez obscur pour le public en général. Et puis, on vous laissera bien sûr des liens sur notre blog underscore.radio.fm. Et puis, vous retrouverez aussi sur Radio Méga. En tout cas, on se retrouve après avoir écouté une petite musique d'une invitro démo partie invitation pour après pour l'agenda.
Ouais.
À tout de suite. Thank you. encore, le débat était encore ici, hein, sur, sur le sujet. Hein,
Ouais, puis du coup, j'ai oublié de remettre les micros.
Mais du coup, oui, c'est vrai que vous avez écouté une musique concernant l'invitro de la démo partie Invitation. C'était une musique proposée par Paul Yack, une musique du groupe Cocoon et Bombe. Donc, c'était une musique qui a été proposée lors de la révision 2022, parce qu'effectivement, on avait une petite antenne française en France.
Oui, il paraît.
Pour la révision satellite.
Oui, je crois que Cyril Lambin était sur place.
Ah, j'aurais pu, mais personnes. Non, j'étais pas là.
Pas là.
Non, j'étais pas là.
Moi non plus.
Et on passe à l'agenda ?
Eh ben oui, bah, qu'est-ce qu'on a ?
Alors rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi. Roud, qu'est-ce qu'on a ?
Des webinaires sur le 6502 avec l'histoire de l'Apple 1 et SmartyKit. Donc découvrez l'assembleur 6502 et sa recréation par SmartyKit. Ce sera gratuit en visio et il y aura plusieurs dates dispo.
Du coup, c'est moi. Soirée libre bidouille, cette soirée débutera avec une courte présentation sur les commandes de base du Shell, le terminal avec Bash, que nous avions déjà abordé lors de nos dernières rencontres. Ça c'est en fait en Ardèche, mercredi 4 mai, de 19h30 à 23h30, à Place de la Mairie à Désaigne.
J'ai un réunion ouverture de compte, plus aspect juridique, fiscaux et comptables. Cette réunion s'adresse aux personnes de Valence et aux alentours ayant déjà suivi une présentation de la monnaie libre, qui souhaitent ouvrir un compte et se faire certifier. Venez avec votre ordinateur portable, si possible. C'est le mercredi 4 mai à 18h au café associatif L'Art des Choix de Chauny, 34 rue de Chauny, Bourg-les-Valence.
Café Outils 65, les mots de passe. Venez découvrir comment donner du fil à retordre aux indiscrets tout en vous facilitant la vie. Au programme, les alternatives aux mots de passe. Maintenant et dans le futur, la biométrie et l'authentification via le smartphone. L'entrée est libre sur inscription le vendredi 6 mai de 9h à 10h au Moulin Digital, 8 avenue de la gare à Alixan.
Wow.
Non mais je m'en fous, hein. Mes mots de passe c'est toujours 1, 2, 3, 4. Pardon.
Non, c'est incorrect.
Ah.
Oui, parce que comme ça, il me le rappelle. Il me dit, votre mot de passe est incorrect.
Ah, c'est vrai.
On a déjà fait celle-là.
Alors, il y a eu des hacks qui ont circulé et le mot de passe le plus utilisé en France, c'est Doudou.
Ah, Doudou comme mot de passe.
Ah ouais. Bon.
Mais est-ce que est-ce que ton Doudou est roux ? Est-ce qu'il est roux, Doudou ? Ah. Dédien ?
Alors, ce mois-ci, c'est Amiga.
C'est Amiga.
Pardon, campagne de... Oui, mais c'était tellement court. Campagne de financement participatif pour Overworld, une série documentaire dédiée à l'histoire des jeux vidéo en monde ouvert, créée en partenariat avec l'association MO5.
À voir le live récent sur YouTube à ce sujet avec Adoro qui a d'ailleurs promis de venir nous en parler. Ah
ouais.
Bah alors...
Ouais, il m'a promis sur RC, bon. Parce que ça fait je sais pas combien de fois que je pense pour qu'il vienne dans l'émission.
Et moi je vais le tanner, tu vas voir, la semaine prochaine on l'a avec nous là.
Ah, je sais pas, parce qu'il m'a dit peut-être en juin, mais bon, on va voir. Du coup, c'était à moi, je crois. ADSILLH, alors c'est ATIL, licence pro, administrateur et développeur de SI à base de logiciels libres et hybrides. Ah, d'où l'acronyme. Après une ouverture en septembre 2016 et 6 promotions, la licence professionnelle ATIL ouvre de nouveau ses portes à l'université de Bordeaux à la rentrée 2022. Donc vous avez tous les liens hein, avec les détails de la formation, les prérequis, les candidatures.
Le gars qui fait cette licence pro, il est embauché direct. Hein. Les gens, ils comprennent rien. Hein. Non mais je sais pas.
ATIL.
Ah, on t'embauche.
À tes souhaits. Madel ?
Si, Tom.
Oui. Mais non, tu connais pas hein. Si Tom.
Oui. Motus.
Voilà.
Ah ouais.
Avec Alain Beccaro.
Voilà, c'est ça.
Il tire Beccaro. Oui, chaque jour, un nouveau mot à trouver. Je joue, hein, j'y joue.
Ah.
D'accord. David Revoix a mis à jour son générateur d'avatar chat et ajoute les oiseaux et d'autres. Astrologique, qui frotte la boule. Je vois.
Ah oui.
Gamer. Bonjour, je voudrais le remboursement du jeu. Et pourquoi, monsieur ? Parce que j'ai toujours pas le message Game Over.
Sysadmin, ce disque dur, il est sans sas.
Nerd, comme j'ai redémarré, j'ai perdu les logs. Et il y a l'ombre d'un boot.
Procrastinateur, pourquoi faire aujourd'hui quand on peut faire demain ?
Quand on peut faire des interférences.
Ouais. Télétravailleur, ma maison et ta maison, tout un travail.
Web designer, on ne fait pas d'applet sans casser div.
Eh bien.
Ah, elle est pas de moi celle-là. Hein. J'ai pompé sur Mastodon, mais je mets les sources.
Ah ouais, non mais en même temps, voilà, tu crédites, hein, parce que sur Mastodon, on trouve plein de monde.
Ouais.
Eh bien, merci les amis auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Bien sûr, vous la retrouverez samedi en rediffusion à 12h10, et puis sinon en podcast hein, sur underscore.radio.fm, également disponible sur Radio Méga, sur Amazon, sur iTunes, sur partout.
Mais c'est mal ça.
Mais si, tu tapes Underscore Radio là, et puis même on nous trouve
pas
dans
partout,
des...
Partout, on n'a pas de Funk Whale.
Ah ouais, c'est vrai. En tout cas, la semaine prochaine, on se retrouve pour faire un petit peu de thérapie avec de la musique, peut-être.
Ah ouais.
Ouais, on a un sujet très intéressant que Matt Bell nous a préparé et on vous a décidé de vous en faire profiter.
Super.
D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.
Ciao.
Et c'est dans la boîte.